Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Alors que les catastrophes climatiques se multiplient, que l'urgence écologique est sur toutes les lèvres, il existe une forme de paradoxe, puisque les fonds dits ESG ou durables marquent un petit peu un ralentissement. Il y a moins d'encours, il y a moins de collecte, et parfois, notamment dans la vague de Trump, bien sûr, il y a une forme de scepticisme. Alors comment peut-on expliquer tout cela ? Eh bien, pour en parler, un des meilleurs spécialistes est ici, c'est David Calfon. Bonjour David.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Président et cofondateur de Sanso Longchamp Asset Management, société qui fait vraiment de cet investissement responsable un acte stratégique depuis sa création. Alors, je le disais, on constate ce repli des encours, alors même qu'il y a des signaux climatiques qui sont vraiment là. On n'a pas de cravate aujourd'hui aussi parce qu'il fait chaud et qu'on s'adapte. Comment est-ce qu'on explique ce recul ? C'est juste, je le disais, un peu momentané parce qu'il y a Trump, parce qu'il y a toutes ces questions-là qui nous disent « attention, peut-être, que faut-il en penser ? Est-ce que c'est conjoncturel ? Est-ce que c'est structurel ? Comment vous sentez les choses un peu ?
Alors, à mon avis, c'est conjoncturel. Et j'ai même envie de dire, ça ne peut être que conjoncturel, tellement les défis sont grands et visibles aux yeux de tous. En fait, moi, je ferais bien une petite différence entre l'investisseur particulier et l'investisseur institutionnel.
D'accord.
L'investisseur institutionnel, lui, il n'a jamais été autant engagé. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de retrait de ce côté-là.
Les pros s'y sont mis et ils y restent.
Oui, et souvent, n'oublions pas, parmi les gros institutionnels, nous avons qui ? Souvent des compagnies d'assurance qui assurent ce risque, qui sont au premier rang de ces impacts.
Eux, ils se rendent compte.
Donc, ils le vivent au jour le jour. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de sujet. Les particuliers, c'est une autre histoire. Ils ont été un petit peu perdus par la réglementation. Comme vous le savez, toutes les réglementations se sont mises en place avec des errements, une première version, une deuxième version, des fois une troisième version de la même réglementation. J'ai envie de dire, l'offre a manqué de clarté réglementaire, elle a manqué de lisibilité, elle a même été complexe de temps en temps, portant le flanc un peu à la critique et au manque de lisibilité.
Oui, c'est vrai, on a l'impression, article 9, SFDR...
Taxonomie,
oui. Alors déjà, ce mot-là, moi, je le comprends en anglais, mais quand on le traduit, quand on le transpose en français, on a l'impression que c'est encore une histoire d'impôt, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a eu toutes les questions de greenwashing, etc. C'est vrai que les épargnants, ils sont un peu paumés, non ?
Ah oui, et j'ai envie de dire, malheureusement, il y a de quoi.
Ouais,
on a eu à la fois une complexité réglementaire et à la fois un problème de label, des labels qui étaient là pour clarifier, justement.
Ouais, il y en a plusieurs, en plus, des labels.
Il y en a plusieurs. Alors, si on les prend un par un, SFDR, ça a été très mal expliqué. Très, très peu de pédagogie à ce sujet-là, notamment autour de tout ce qu'on appelle article 8, où tout d'un coup, les gens se sont dit que l'article 8, ah oui, c'était vraiment très, très, très ISR, alors que pas tant que ça. C'est un bon niveau, une première étape nécessaire, indispensable. Le Saint Graal étant l'article 9, qui lui est carrément extrêmement impactant, oui, etc. Et du coup, ça a donné lieu à de l'incompréhension et du coup, des soupçons de greenwashing, en disant, mais je ne comprends pas, comment ça, il y a du Total dans mon portefeuille, que se passe-t-il, etc. Donc, ça a vraiment été un problème. Et la bonne nouvelle, c'est que, justement, la réglementation SFDR est en train d'être revue. Et aux articles 6, 8, 9, un peu rébarbatifs, vont se substituer des catégories qui vont être beaucoup plus lisibles, qui vont dire...
Donc on va mieux comprendre ce qui se passe.
On va mieux comprendre ce qui se passe dans le fond. Voilà. Deuxième point, le label d'État ISR, il a été critiqué. Il a été critiqué parce que pas assez exigeant par rapport à ses concurrents européens, etc. Nous avons, depuis le 1er janvier 2025, et le public ne le sait pas assez, nous avons une nouvelle version du label d'État ISR, la V3. Cette V3, elle est très exigeante. Elle doit redonner ses lettres de noblesse.
Augmenter les pourcentages.
Voilà, exactement. Elle va redonner ses lettres de noblesse au label. Et j'espère qu'avec ça, on va repartir sur des bases un peu plus saines.
Est-ce que finalement, ça ne va pas devenir, en quelque sorte, une préoccupation ou une question essentiellement européenne ? Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, là, il n'y a pas de problème de label, il n'y a pas de problème d'article. Il y a juste un problème, entre guillemets, c'est que le sujet est ultra politisé. Ça veut dire que il peut y avoir des questions de rejet idéologique.
Alors,
de ces considérations dont on voit encore, je le dis avec cette vague de chaleur, dont on voit la concrétude au quotidien.
Alors, aux États-Unis, il n'y a aucun doute sur la politisation du sujet. Ouais. Mais il faut voir aussi qu'aux États-Unis, il y a aussi une grande tradition de philanthropie. Et les investisseurs aux États-Unis ont envie de nous dire, attendez, on ne va pas mélanger les sujets.
Ah oui.
Si je veux faire du bien, je donne de l'argent. C'est de la philanthropie, c'est séparé. Je suis en bourse, je m'en fiche de tout, je veux juste avoir la meilleure des performances possibles. Et c'est là où il y a un paradoxe, parce qu'en Europe, on n'a pas du tout ce même point de vue. L'Europe, c'est le berceau de l'investissement socialement responsable, donc le sujet n'est pas encore engagé. J'ai envie de dire que, du moins c'est la manière dont on le voit chez Sanso, on se retrouve avec... tout ce qui touche à l'ISR, c'est beaucoup plus que de la réglementation, c'est tout simplement de la gestion du risque. Et c'est ça qui est véritablement important.
Quand on parle ESG, déjà, environnement, social, gouvernance, déjà, tout le monde ne voit que le climat, quasiment. Oui. Il n'y a que le E qui compte, le S, le G... Je ne suis pas sûr que tous les investisseurs particuliers, en tout cas, aient tout à fait bien compris. Mais en plus, quand on parle ensuite d'une ou de l'autre des thématiques, on a l'impression que c'est, voilà, il faut réfléchir de façon éthique. Est-ce que vraiment j'ai l'envie, la motivation pour effectivement faire du bien, etc. Alors que quand on en discute, et c'est intéressant que vous nous portiez cette idée-là, quand on discute avec des acteurs de ce monde... on s'aperçoit qu'en fait, le fait de prendre en compte ces critères permettent d'éviter ou de limiter des risques financiers majeurs, voire essentiels. Et il y a des exemples récents de gadins boursiers. Quand je parle de gadins, c'est du 90 et quelques pourcents, chose dont on se relève que rarement en bourse, on est d'accord?
On est bien d'accord.
Et ça, un filtre ESG aurait permis de limiter... son investissement dans ce type de titre, non ?
Je pense qu'il y a une grande maladresse au démarrage, c'est que quelqu'un a décidé d'appeler ça extra-financier.
Ouais.
Et je le dis souvent à mes équipes, c'est extra-financier aujourd'hui. Mais demain, ce qui est extra-financier aujourd'hui, demain c'est financier. Ouais. On a eu des dizaines d'exemples. Lorsque vous avez Bayer, qui était l'une des plus belles sociétés chimiques allemandes, qui rachète Monsanto... Au début, on se dit « Ah oui, tiens, il y a un risque extra-financier. Monsanto perd un procès avec ses produits glyphosate, etc. et paye des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Il n'y a pas plus financier que ça. Lorsque BP déverse des tonnes de pétrole dans le golfe du Mexique, l'amende qu'il paye derrière, ce sont des centaines de millions de dollars. C'est de l'argent. Donc, effectivement, il s'agit pour nous de gérer ce risque. Parce que ce risque climat, qu'on le veuille ou non, on l'a embarqué, on le vit tous, on le subit tous, toutes les entreprises le subissent.
Ouais, c'est aujourd'hui un enjeu, j'ai envie de dire, patrimonial à part entière.
Ah mais tout à fait, puisque, encore une fois, ce sont les résultats de l'entreprise de demain qui sont à risque. C'est un vrai sujet. Investir dans des sociétés qui ne sont pas préparées ou qui sont exposées sans le savoir, je vais vous donner... un exemple qui est toujours l'exemple que je préfère parce que c'est le plus lisible. Il y a une époque où tous les grands complexes industriels s'installaient au bord de l'eau. C'est pratique. On reçoit les matières premières, on les expédie, les containers partent, arrivent, etc. Super gain d'efficacité, les actionnaires applaudissent. Bon, aujourd'hui, le problème du bord de l'eau, c'est que...
l'eau monte.
On ne sait pas trop dans 10 ans où il sera le bord de l'eau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de capacités de production qui vont devoir être démontées, délocalisées, relocalisées. Mais c'est où dans le bilan? C'est où dans le compte de résultat de la boîte?
Mais vous voulez dire qu'il y a... on les multiplie, hein, sécheresse, inondation, d'énormes, etc. Ça veut dire qu'en fait, les sociétés, j'ai envie de dire presque malgré elles, sont de plus en plus exposées ou soumises à ces contraintes,
tous,
à ces risques climatiques. Et que les modèles avec lesquels on les ausculte aujourd'hui ne les prennent pas en compte? Ou pas suffisamment?
Encore une fois, reprenons ce même exemple d'usine qui doit se délocaliser. vous n'avez pas de provisions qui sont faites dans les comptes de l'entreprise. Ce n'est qu'une fois que l'inondation a eu lieu qu'on constate les dommages, qu'on a des coûts exceptionnels, etc. Alors effectivement, ceux qui adorent la finance se disent « Ah oui, mais ça, c'est du résultat exceptionnel, donc on ne le regarde pas. » Mais finalement, c'est de l'argent qui sort du patrimoine de l'entreprise, c'est de l'argent qui n'ira pas en dividende à l'actionnaire, c'est de l'argent qui ne fera pas de performance. Donc patrimonialement, on a un vrai sujet. Les sociétés y sont exposées, ne pas le gérer, c'est de l'inconscience.
Mais ça veut dire que, entre le greenwashing, les labels qui n'étaient peut-être pas suffisamment affûtés ou expliqués, etc., le particulier ou l'investisseur privé, on va dire, il est un peu paumé. Il ne sait pas très bien où il va. Et il se dit, après tout, je ne suis qu'un petit maillon au bout de la chaîne, le risque, je ne le porte pas vraiment. Si, c'est un vrai risque, y compris pour un épargnant privé aujourd'hui, de voir ces questions-là et de se dire « je les intègre ou je ne les intègre pas ».
Encore une fois, le risque est présent. Et c'était véritablement ce sujet qu'on a pris à bras le corps dans notre fonds Sanso Smart Climate. On s'est dit « voilà, bien entendu, on va regarder le bilan, le compte de résultat, comme tout le monde. Mais on ne peut pas regarder que ça. Il faut qu'on regarde si est-ce que les sociétés sont exposées ou pas au risque climat. Et si elles le sont, est-ce qu'elles sont en train de mener une politique proactive d'adaptation ? Et c'est ça qui nous importe. Nous, ce qu'on aime bien, c'est soit les sociétés qui ne sont pas exposées au risque climat, soit les sociétés qui sont exposées, mais qui sont en train de gérer ce risque et de mettre en place une politique d'adaptation claire.
Et c'est ce que vous appelez, entre guillemets, le multithématique ?
Tout à fait, parce que, encore une fois, ça n'épargne aucun secteur. On peut regarder entre une société automobile et une autre, on peut regarder entre une boîte de software et une autre, ça touche tous les secteurs parce que, encore une fois, c'est une thématique qui est universelle. Les incendies peuvent se déclencher un peu n'importe où. Les tempêtes, on a bien vu quelque temps en plein Paris des arbres qui sont arrachés,
brisés,
etc.
Brisés comme des fûts de paille, ouais.
Exactement. Ça peut empêcher une entreprise de tourner sans prévenir.
Du coup, qu'est-ce que vous sentez qu'ils recherchent quoi, nos investisseurs, qu'on va qualifier, c'est un bien grand mot, mais qu'on va qualifier de responsables aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, parce qu'il y a bien évidemment cette question de s'épargner quelques risques et donc de préserver son capital, mais il y a aussi la question de l'impact. Il y a la question, puisqu'on a parlé de greenwashing, de la clarté. Puis il y a la question aussi quand même du rendement. C'est de dire, d'accord, mais si je fais attention à tout ça, est-ce que finalement, je vais pas gagner moins d'argent ? Donc, il y a quand même beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que vous privilégiez finalement chez Sanso pour aller leur dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer ?
Alors, je pense que ce que recherchent les investisseurs, en tous les cas, ceux que nous rencontrons, ils veulent de la clarté, de la crédibilité et de l'authenticité.
D'accord. Voilà,
c'est à peu près ça. Clarté, ils veulent un process transparent. Ils veulent qu'on leur explique, qu'on soit honnête avec ce qu'on peut faire. Il ne faut pas dire « acheter ce fonds, ça va sauver la planète ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est « acheter ce fonds ». Dans ce fonds, vous avez des sociétés qui ont anticipé ce risque climat, qui vont être moins affectées que les autres par le risque climat. Et donc, sur le long terme, au fur et à mesure que ce risque climat va se matérialiser, ces sociétés vont mieux s'en sortir que les autres. Voilà. De l'authenticité aussi. Ça fait depuis 2016 qu'on travaille sur ces sujets. Pour certains de mes collaborateurs, depuis bien plus longtemps que ça, ils veulent sentir que l'équipe ne fait pas ça parce que l'équipe marketing leur a dit que c'était bien.
Il fallait coller une pastille verte.
Exactement. Il faut un peu y croire. Moi, je fais souvent rire mes clients en leur disant que, petit, j'aimais bien les westerns. Le western, à la fin, c'est le gentil qui gagne. Et je ne peux pas concevoir être dans un monde où une société qui se comporte comme un voyou, que ce soit sur le point de la gouvernance, l'impact sur le climat, la manière dont il traite ses collaborateurs au niveau social, je ne peux pas imaginer qu'on se comporte n'importe comment
et qu'à la fin, ce soit eux qui gagnent.
Ouais. Voilà, et qu'on ne soit pas rattrapé par la patrouille un jour ou l'autre.
Bon, j'aime bien demander un petit tips, un petit message clé en quelques mots que l'acteur patrimonial que j'ai la chance d'interviewer puisse glisser à l'oreille de l'auditeur ou du téléspectateur qui nous écoute et qui nous regarde ce matin. Voilà, si l'auditeur, vous avez compris dans son propos, il veut du sens, il veut de la perf, mais il veut aussi protéger son patrimoine, qu'est-ce que vous lui dites ?
Je pense que c'est important qu'il comprenne que le climat, c'est un véritable risque financier. Ça, c'est vraiment le point clé à comprendre.
Ce n'est pas extra-financier.
C'est un risque à part entière pour les entreprises. Lorsque ces risques sont correctement identifiés et bien intégrés à la gestion du portefeuille, ça contribue à protéger les investisseurs et leur patrimoine.
Merci beaucoup, David.
Merci, Cédric.
D'avoir passé ces quelques petites dizaines de minutes ensemble sur Radio Patrimoine. David Calfon, président et cofondateur de Sanson Longchamp Asset Management, de la conviction ce matin sur l'antenne de Radio Patrimoine. Merci beaucoup et à très vite.
À bientôt.
Et nous, on poursuit bien évidemment Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.